Un sondage publié par le journal La Libre vendredi dernier montrait une croissance des extrêmes droite et gauche dans les intentions de vote en Belgique, en Flandre et en Wallonie. L'occasion pour nous de nous entretenir avec Benjamin Billard, politologue au CRISP et chargé de cours à l'UC Louvain, spécialiste des extrêmes à ce sujet.
Benjamin Billard, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes politologue au CRISP, chargé de cours à l'UC Louvain. En juin 2024, les Belges sont appelés aux urnes. Un nouveau sondage publié par La Libre fait état des intentions de vote des Belges. Et ce sont les extrêmes de droite et de gauche qui sont les grands gagnants de ce sondage. Pour commencer, Benjamin Billard, êtes-vous étonné par ces résultats ?
Alors, pas véritablement, puisque si on se réfère aux précédents sondages, qui ont d'ailleurs été nombreux depuis les élections du 26 mai 2019, on voit qu'on confirme une tendance déjà observée, c'est-à-dire un Vlaams Belang, parti d'extrême droite au nord du pays, qui occupe la première place du podium avec 23,3% d'intention de vote dans ce dernier sondage, et le PTB, pas seulement en Wallonie, même si effectivement il talonne de peu le mouvement réformateur en se positionnant à la troisième place, devant Écolo, devant les engagés et de loin d'ailleurs, mais c'est une formation, le PTB, qui parvient aussi à se développer encore à Bruxelles et également en Flandre, on a parfois tendance à l'oublier. Donc effectivement, je crois que c'est une tendance qui semble de plus en plus s'ancrer, se confirmer, même si à nouveau un sondage n'a pas vocation à prédire les résultats de l'élection qui interviendra le 9 juin prochain, mais ça nous donne déjà un indicateur en tout cas de l'état de l'opinion aujourd'hui en la matière.
Historiquement, le paysage politique est respecté. La droite en Flandre, la gauche en Wallonie, sauf que là, on est passé aux extrêmes.
De manière générale, effectivement, on peut le voir sous cet angle. N'oublions pas que le parti socialiste flamand, Vooruit, connaît un regain électoral assez marqué aussi. Et malgré d'ailleurs les éléments qui ont entouré et qui ont mis dans la turbulence le jeune président Conor Rousseau de cette formation politique, puisque Vooruit gagne 5,3 points de pourcentage et se hisse à la troisième position dans la hiérarchie des partis en Flandre. Donc on voit qu'il y a quand même ces nuances à amener, indépendamment de la progression du PTB que j'ai déjà évoqué, mais clairement, effectivement, on peut observer un paysage politique fragmenté de manière générale, avec une Flandre beaucoup plus à droite et à l'extrême droite, et une Wallonie où on a des formations qui se démarquent plutôt sur la gauche de l'échiquier politique.
C'est la première fois dans l'histoire que les extrêmes sont aussi puissants, que ce soit dans le nord ou dans le sud du pays ?
Effectivement, donc on n'a pas nécessairement en termes de sondage, on a déjà eu des sondages récents d'ailleurs qui indiquaient que le Vlaams Belang était encore plus puissant, frôlait les 30% dans un sondage mené spécifiquement au début du mois de septembre en Flandre occidentale par exemple, mais en termes de résultats en tout cas, le Vlaams Belang n'a jamais été la première formation politique du pays lors d'une élection fédérale en l'occurrence, on verra à nouveau si ça se confirme. Le PTB-PVDA, qui est né presque en même temps, en réalité, si on regarde dans une approche historique, que le Vlaams Belang, qui a mis beaucoup plus de temps à se développer, à gagner des sièges. C'est en 2012 que cette formation opère une première percée au niveau local. En 2014, qu'elle pénètre les assemblées parlementaires de la même manière. On voit aujourd'hui qu'elle continue à progresser, à s'ancrer dans le paysage local, mais pas seulement, également au niveau national, à progresser, et ça en fait un acteur de plus en plus important avec lequel il faut désormais compter dans le paysage politique.
Alors, Benjamin Billard, en ce moment, une guerre oppose Israël au Hamas. On connaît la position du PTB dans ce conflit. Selon vous, cela peut-il jouer un rôle dans leur quête de voix ?
Alors, en tout cas, dans le sondage tel qu'il a été réalisé et mis en évidence hier, pas puisqu'il a été mené avant les prise de position des uns et des autres. En tout cas, on était dans une période qui est entamée au début du mois de septembre, donc pas véritablement. Je pense que d'ici les élections, beaucoup de choses peuvent encore se passer. Alors, le conflit israélo-palestinien ne sera certainement pas résolu d'ici là. Je pense qu'on est parti pour de très nombreuses années encore de tensions fortes à cet égard. Je pense que c'est un enjeu qui pourra effectivement éventuellement coûter à certaines formations politiques, mais je crois que très rapidement, d'autres enjeux, socio-économiques par exemple, sécuritaires, peut-être en matière de mobilité également, reprendront rapidement, je pense, le pas dans l'agenda politico-médiatique en Belgique. Et donc, je ne suis pas sûr que ça aura une influence déterminante le 9 juin, sachant que c'est encore quand même dans un certain nombre de mois.
Vous avez évoqué le cas Connor Rousseau. Donc, ce sondage a été publié avant, enfin a été réalisé avant le scandale pour propos racistes qui entoure le président de Voreuth. Selon vous, après une fois que de nouveaux sondages seront publiés avec ces faits en tête, cela peut-il changer? On parle quand même de Paul Magnette et Connor Rousseau qui sont réellement candidats pour devenir premier ministre en 2024.
Alors effectivement, je ne sais pas si ça aura un impact sur la trajectoire électorale à proprement parler de Voreuth. On voit que quand même cette formation semble se redévelopper. Elle a quand même connu son score historiquement le plus bas en 2019. Donc on voit que Conor Rousseau a réussi à imprimer sa marque, à réamorcer finalement une nouvelle croissance pour sa formation politique. Alors, effectivement, ces derniers propos ne seront peut-être pas sans impact, mais je dirais que si impact il y a, ce sera surtout peut-être par rapport à la légitimité de la présidence de ce parti, Conor Rousseau, éventuellement pour exercer une fonction de premier ministre à l'issue des négociations qui suivront les élections du 9 juin. Je ne suis pas certain que ça aura un impact durable sur la progression électorale du parti, d'ailleurs d'une formation qui s'est montrée déjà depuis un certain nombre d'années, avant même que Conor Rousseau n'accède à la présidence du parti, moins modéré peut-être sur la question notamment migratoire. On a eu les propos en 2022 selon lesquels Conor Rousseau ne se sentait plus nécessairement chez lui lorsqu'il se promenait à Molenbeek, souvenez-vous, il les a répétés à deux reprises ces propos. On voit qu'il y a une volonté d'aller, sinon récupérer des voix parties à l'extrême droite, en tout cas de tenter d'endiguer la fuite de certains électeurs vers des formations plus radicales, plus ancrées sur la thématique migratoire.
Alors, aujourd'hui, en octobre 2023, nous n'en sommes qu'à des suppositions, qu'à des sondages, mais selon vous, un gouvernement avec les deux extrêmes représentés, c'est vraiment envisageable ?
Non, je pense que c'est tout à fait impossible au niveau fédéral, dans le sens où il y a toute une série de formations politiques qui rejettent d'emblée, qui ne pourraient pas accepter de gouverner avec le Vlaams Belang d'une part, et en même temps d'autres formations politiques qui ne peuvent envisager de gouverner avec le PTB. Donc on voit bien qu'on se retrouverait dans une difficulté assez importante. Si on envisage un scénario incluant le PTB par exemple, ça nécessiterait d'ajouter les socialistes francophones, les socialistes néerlandophones et les écologistes, les formations qui a priori pourraient envisager de manière très théorique de gouverner avec le PTB, mais ça nous donnerait 70 sièges sur 150. On voit bien qu'il n'y aurait pas de majorité qui pourrait se dégager pour ce type de formation politique. Donc, je pense qu'on aura davantage une forme classique de gouvernement, c'est-à-dire qui rassemble les partis traditionnels et vraisemblablement la NVA qui est quasi incontournable, sauf à reconduire la majorité actuelle, la Vivaldi, qui serait moins forte, elle n'aurait que 82 sièges, soit 6 de moins qu'aujourd'hui, mais néanmoins qui disposerait d'une majorité. Ce serait une des rares formules qui permettrait de se passer d'une certaine manière de la NVA. On voit qu'elle est globalement, presque en tout cas, incontournable.
Vous avez évoqué le fait que plusieurs partis ne voulaient pas diriger avec l'extrême droite. On pense donc au cordon sanitaire. Comment ça se fait que le cordon sanitaire n'est pas appliqué à l'extrême gauche qui a des fois des positions très très douteuses, si j'ose dire?
Alors, la première chose peut-être, c'est qu'il y a effectivement une volonté de ne pas gouverner avec ces formations politiques dans le chef de toute une série de formations dites traditionnelles. Le PTB n'a pas encore non plus montré de signes d'ouverture dans le sens d'une volonté de gouverner, notamment au niveau fédéral, mais aussi au niveau régional et communautaire. Donc c'est aussi un élément de l'explication. Mais pour répondre plus directement à la question, c'est une question qui agite certaines formations politiques, notamment libérales. On sait qu'au sein du Parti Socialiste, certaines voix, peut-être pas majoritaires, réclament aussi l'extension de ce principe du cordon sanitaire à l'endroit du PTB. En réalité, il faut remonter sur les origines du cordon sanitaire qui a été décidé à partir de 1989 à l'endroit du Vlaams Blok dans un premier temps, qui s'est étendu à l'endroit de l'ensemble des formations d'extrême droite, tant en Flandre qu'en Belgique francophone depuis lors, qui tient toujours, on verra jusque quand, après les élections de 2024, en tout cas après les élections communales, où je pense que là on pourrait voir une évolution en la matière. Je crois que il faut remonter effectivement aux sources, et c'est parce que cette formation faisait ouvertement preuve de racisme, de xénophobie notamment, que ce cordon sanitaire s'est développé. Le PTB n'étant pas un parti usant de racisme ou de xénophobie par exemple, la question ne s'est jamais posé dans ces termes. Après, en tant que formation plus radicale, extrême, éventuellement, la question peut aussi légitimement se poser. Elle se pose au sein de certaines formations politiques et elle semble évidente pour certaines, la NVA, les partis libéraux également. Et donc, c'est en ce sens que je disais qu'il est très peu probable de voir le PTB rejoindre une coalition au niveau fédéral.
Benjamin Viard, je rappelle que vous êtes politologue au CRISP, chargé de cours à l'UC Louvain. Merci d'avoir répondu aux questions de Radio Judaïka.
Merci à vous.